Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette bulle sonore réalisée dans le cadre du projet des mots et des notes mené par la Compagnie du Jour au Centre Médical Roche-Plane. Décembre 2022.
Ma grand-mère était si menue, si fragile, qu'elle aurait pu tenir facilement dans un cartable, par exemple, entre deux manuels scolaires. D'ailleurs, elle était vue dans sa maison comme un morceau de sucre commun et friable, voué à la dissolution. Alors, comme toutes les choses fragiles qu'on ne veut pas voir disparaître, elle était maintenue à l'abri du monde. Et c'est comme ça qu'elle a pu arriver, à l'âge de 34 ans, comme une enfant heureuse, jamais sortie de l'adolescence et destinée à ne jamais devenir adulte. Personne ne lui avait jamais rien appris. Elle s'était retrouvée orpheline à 6 mois, recueillie par des parents bourgeois à qui elle avait servi de bonne, et à l'âge de 13 ans, un autre bourgeois l'avait épousée, et ça, sans l'avoir jamais vue. Puis, il l'avait gardée chez lui, à l'abri des regards, comme dans un écrin, un grand classique. Mais à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Personne ne s'en plaignait, ni les hommes, ni les femmes. Il y avait une sorte de respectabilité évidente chez l'homme qui gardait sa femme à la maison, et chez la femme qui y restait. Je peux même affirmer que cette femme-là, ma grand-mère, était heureuse. Son monde était rassurant, immuable. Tout prenait sens à travers les fantaisies que produisait son ignorance. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je parle de cette capacité extraordinaire que n'ont que les enfants, les gens simples et les fous. Cette capacité à fantasmer des explications insolites là où il n'y a que vide et silence. Ma grand-mère n'avait aucune notion d'infidélité, par exemple, ni d'amour marital, ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Elle était heureuse, tout simplement, et ne se posait aucune question. On ne peut sûrement pas en dire autant de nous. Ce n'est pas admirable, mais il faut l'avouer, l'ignorance est une carapace merveilleusement efficace contre la réalité. Et nous en savons trop.
C'est joli. Vous avez appris sur le tas, ça?
Ouais. Ben, j'étais là-bas, hein, en Côte d'Ivoire, à Abidjan.
Oui.
Et tous les matins, j'allais au marché. Ouais. Il y avait un vieux monsieur qui vendait des œufs durs et des oranges. Je lui achetais presque tous ses œufs durs et toutes ses oranges. Je m'asseyais à côté de lui et jouais de ça. Et il l'a fabriqué.
C'est une sacrée sonorité. Hein.
Et un jour, on l'a fait, hein, sans me le dire.
Ah oui?
Je lui ai acheté et je me mettais à côté de lui. J'apprenais en regardant ses doigts, reproduisant les gestes.
Ça doit pas être évident, hein.
Puis après, un jour, j'ai réussi à faire un rythme comme ceci. Et lui s'est mis à me répondre.
Rafistolé. Il n'est pas de la haute. C'est un roturier. Il n'a pas bac +++ et il s'en passe. Il a la casquette sur l'œil, les mains habiles et le sourire encourageant. Il ne peut rien promettre, il n'a pas la notice, mais il va voir ce qu'il peut faire.
Chez lui, c'est à la bonne franquette. Ça sent les moyens du bord. C'est le royaume du « ça peut servir ». Il garde tout. Et même, il récupère chez vous, dans la rue, dans les décharges, aux puces et dans les bandes de trottoir. Il va raccorder un bout de truc à un morceau de machin. Trouver sur une moitié de choses exactement le rouage qui lui manquait, qu'il fera tenir avec un fil pris. Tu sais, là-bas, sur le bidule, dans le coin, oui, la terre qui ne servait plus à rien. C'est pas de l'art. Il ne sait pas combien de temps ça va marcher, mais on peut toujours essayer. Il sera même capable de récupérer un cœur en détresse et de le remettre en état. Il a tout ce qu'il faut pour ça. Ça tiendra ce que ça tiendra. Qu'est-ce qu'on risque ?
Le jour commence et le meilleur
est déjà pris.
Vous savez, là, ce que vous me dites, vous étiez en train de me faire rappeler quand j'avais 15 ans, je travaillais en boulangerie. À 15 ans, on commence à 5h du matin. Alors, je devais d'abord commencer à nettoyer les vitres, à gratter les vitres. Après, aider le boulanger qui avait préparé son pain, ses croissants, sa viennoiserie, à les mettre en rayon. Et comme vous dites, le premier client, on est là, on l'accueille. Bonjour, comment ça va? Et ils me donnent, on leur donne leur croissant. Ça m'a trop fait penser à ça. Ah. Il est joli. Ah, je me suis revue quand j'avais 15 ans. Ah, c'est hallucinant. Vous voyez, des fois, les coïncidences.
Ouais.
Ah bah. Vraiment, ce poème, il était vraiment. On dirait qu'il a été choisi, là.
Bon, voilà. Bah. Donc, c'était une bonne surprise.
Ah, bah voilà.
Pour moi, ça a été une bonne surprise.
Ah, ah bah, pour nous aussi.
Pas une ligne droite. Le chemin n'est pas une ligne sinueuse non plus. D'ailleurs, qui a dit que le chemin devait être une ligne? Le chemin pourrait être un ensemble de carrés, de cercles ou d'étoiles, entre lesquels on sauterait à cloche-pied pour ne pas se faire mordre par des épines sauvages. Le chemin, par ailleurs, est-il toujours unique? On dit qu'on suit sa route, qu'on trace sa ligne. Mais peut-être qu'il y en a plusieurs. Peut-être qu'on les suit tout à la fois, en sautant de l'une à l'autre, sans même s'en rendre compte. Ou peut-être qu'il n'y a pas de chemin après tout. Quand on s'arrête et qu'on regarde derrière, on a forcément l'impression d'avoir tracé une ligne. On peut compter les heures et les kilomètres, une chose en entraînant une autre, ce genre de sentiment. Si notre mémoire n'était pas défectueuse, on pourrait même expliquer précisément comment les perles s'enfilent et reconstituer parfaitement notre histoire. Tout paraîtrait très logique. Une ligne bien tracée où le choix n'est que peu de choses. Mais n'est-ce pas une illusion? Quand on imagine une ligne, on voit un trait unique qui avance dans différentes directions, droites ou sinueuses. Dans ce cas, si cette ligne est unique, même les carrefours ne sont rien d'autre que des nœuds. Par hasard, la ligne repasse par la même place et c'est tout. Les croisements, ces fameux moments décisifs, seraient donc très artificiels. Si dès le départ, il n'y a qu'une seule ligne et qu'un seul sens, alors même face à un pseudo-carrefour, on n'aurait pas l'option de changer de voie, de bifurquer. Puisque c'est la même ligne, après tout. Pourtant, en réalité, la vie présente des accidents. Notre ligne est imperceptiblement affectée par les lignes des autres. Les chemins en croisent d'autres, et parfois s'enfoncent dans la nature, jusqu'à disparaître tout à fait. Il y a aussi des parties impraticables, qui demandent de faire preuve d'imagination. Il est parfois recommandé d'emprunter le chemin de quelqu'un d'autre. D'autres fois, il faut faire du hors-piste et risquer de se perdre. Il est vrai, cependant, que certaines personnes tracent leur route avec une résolution peu ordinaire. Elles se moquent des obstacles et des broussailles. Elles progressent comme un bulldozer et foulent sans pitié herbes et insectes, allant de l'avant en laissant derrière une impeccable ligne droite, le destin tout tracé. Le chemin dans toute sa splendeur. Mais que voient-elles, ces personnes, tandis qu'elles tracent cette route à la droiture extrême? Puisqu'elles marchent sur les obstacles, elles ne peuvent que faire attention et regarder leurs pieds. À l'inverse, l'avantage de suivre un chemin ordinaire est que même s'ils n'avancent pas en ligne droite, voire en ligne du tout, il vous laisse le temps de flâner et de regarder à droite à gauche. Peut-être que ce chemin ne vous mènera pas bien loin, c'est vrai. Et alors, même si on n'avance pas beaucoup, du moment que le but n'est pas à portée d'œil, le chemin reste aventureux. Même un tout petit chemin peut devenir une grande aventure. Il faut être fidèle et attentif pour ne pas passer à côté des choses, et on ne pèse certainement pas tout. Mais à l'arrivée, n'est-ce pas plus drôle d'avancer à l'aveuglette sans trop forcer?
Bien. Très très bien.
Voilà.
Comment vous faites ça?
Hein?
Il y a longtemps que vous faites ça.
Que je fais quoi précisément?
Vous écrivez.
Ah, que j'écris très longtemps. J'ai commencé à écrire, j'avais 9 ans.
Oh, incroyable. Ah, ouais.
Bon, c'était pas terrible. Hein.
Très bien. Et là, vous avez décidé de... Comment vous êtes arrivé à faire, à déclamer vos textes accompagnés de musique?
Alors en fait,
quel chemin avez-vous pris?
Quel chemin, vous savez. Il y avait un appel à projet de Rocheplan spécifiquement, donc notre compagnie théâtre a proposé un projet de où on mélangerait musique et texte. Et donc c'est essentiellement des comédiens qui lisent. Mais comme moi, ben, je suis auteur, j'ai dit ben, je vais lire mes propres textes plutôt que d'aller...
C'est pour ça que vous avez une gestuelle en plus qui accompagne ce jeu. Ouais,
c'est bien. T'es auteur, mais t'es beaucoup auteur de théâtre en fait.
Oui, moi je suis auteur de théâtre principalement.
Ah, des ateliers d'écriture aussi, mais...
Alors, pas tellement en vérité. Attends, ouais. Et en fait, ces textes spécifiquement, ça fait partie d'un processus d'écriture que j'appelle l'écriture participative. Mm-hmm. En fait, je vais rencontrer des gens et on a des thématiques à chaque fois. Donc, je discute, mais c'est très libre. Je n'ai pas des questions. Je parle avec les gens. Et j'écris des textes, mais qui ne sont pas forcément ce que les gens m'ont raconté. C'est vraiment le reflet de notre échange. D'accord. Donc, c'est-à-dire de ce qui m'est passé par la tête, des émotions que... Voilà, et je pique des mots aussi, des structures de phrases. Et donc, je construis des textes à partir de ça.
D'accord.
Et donc, voilà. Là, en l'occurrence, par exemple, ce texte-là, c'était une dame, une religieuse. Et donc, elle me parlait du destin. Donc, voilà, ça m'a inspiré ce texte-là. Mais c'est pas... Il y a des mots qui sont d'elle, mais c'est pas exactement ce qu'elle me raconte. Donc, voilà, j'ai plein comme ça de petits textes. Mais c'est vrai que moi, comme je suis auteur de théâtre, quand j'écris les textes, je les lis à haute voix pour entendre comment ils vont sonner. Mmh. Et donc, c'est vrai que j'ai...
c'est très bien.
Vous avez pu entendre « Ma grand-mère » d'Émilie Malos, lue par elle-même, accompagnée de Florent Diarra au Goni. « Rafistolé » d'Anne Sylvestre, lue par Henri Thomas, accompagnée d'Olivier Fontaine aux percussions. « Le croissant du trottoir » de Philippe Delerme, lue par Anne-Sophie Galigné, accompagnée par Patrick Reboux. « Le chemin » d'Émilie Malos, lue par elle-même, accompagnée d'Alain Lafuente aux percussions. Vous entendez actuellement Florent Diarra au Goni. Merci de votre écoute.